Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 9 janvier. Avec vous, Journal du Casse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le ou les personnages de la semaine. Et on parlera d'une exposition de mode aborigène à Paris. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 9 janvier, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre plus de 30 000 nouvelles infections et 16 décès, alors que le Victoria enregistre plus de 44 000 cas de Covid et 4 décès. Une exemption a été accordée pour que Novak Djokovic reçoive de la nourriture sans gluten et un ordinateur portable pendant sa détention. Tennis et beaucoup beaucoup de finales ce dimanche. Ash Barty jouera la finale de l'Adelaide International et le français Monfils jouera contre le russe Khachanov. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 30 062 nouveaux cas de Covid-19 et 16 décès dus au virus, ce qui en fait l'un des jours les plus meurtriers de l'État depuis le début de la pandémie. Il y a 1927 personnes hospitalisées avec le virus, contre 1775 hier, samedi. 151 personnes sont en soins intensifs. Le New South Wales a enregistré 98 986 résultats de tests samedi, en baisse par rapport auprès de 117 000 traités vendredi. On pense que les chiffres officiels ne reflètent pas le nombre total réel de cas dans l'État en raison de problèmes d'accès aux tests PCR et aux tests antigéniques rapides. Le nombre de cas devrait augmenter une fois que le processus en ligne pour signaler les résultats positifs des tests rapides dans l'État sera mis en service mercredi prochain. Le gouvernement fédéral déclare que tout est en place pour commencer à vacciner les enfants de 5 à 11 ans qui deviendront éligibles pour leur vaccin à partir de demain, lundi. Des inquiétudes ont été exprimées quant à l'approvisionnement en vaccins. Certains parents ayant été invités à reporter la réservation de leur enfant et certaines pharmacies et médecins qui se plaignent d'être limités dans la quantité de vaccins qu'ils pouvaient commander. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré sur l'ABC que même si les pharmacies individuelles pourraient avoir une capacité limitée en termes de nombre d'employés dont elles disposent pour administrer les injections, il y aura quand même beaucoup de vaccins disponibles.
The orders, as I say, are well ahead of schedule. We're going through record delivery last week and this week in terms of total vaccines, and that includes the children's vaccines.
Le Victoria a enregistré 44 155 nouvelles infections au Covid-19 ce dimanche et 4 autres décès. Et grâce aux tests rapides, 22 051 cas de ces 44 155 cas ont été découverts. Il y a actuellement 752 personnes à l'hôpital, dont 104 en soins intensifs. 16% des adultes du Victoria ont reçu 3 doses d'un vaccin. New South Wales Health a annoncé que les travailleurs essentiels des secteurs de l'alimentation et de la fabrication, identifiés comme des contacts étroits, n'ont plus besoin de s'isoler. L'exemption est intervenue alors que les grands supermarchés connaissent des pénuries de certains produits, car jusqu'à 20% de la main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement, comme les chauffeurs de camions, s'isolent en raison du Covid-19. On passe en Inde pour examiner la situation du Covid. Le nombre de cas a doublé en 3 jours, plus de 140 000 cas en 24 heures. Les dernières nouvelles donc avec Sébastien Farcy pour Radio France Internationale.
Il est 14h ce samedi, généralement l'heure de pointe dans le quartier commerçant de Defence Colony au sud de New Delhi, mais les rues sont quasiment désertes. L'épicerie de Jimmy Van Davan est l'un des seuls magasins qui a le droit d'ouvrir.
Il n'y a pas de clients, les gens ne s'aventurent pas dehors. Personne ne sait ce qui va arriver cette fois. Heureusement, depuis un an, nous livrons dans toute la ville gratuitement, par des paiements sans contact. Mais cela ne compense pas, bien sûr.
Un peu plus loin, dans le bazar de Kotla, la situation est là bien plus grave. Une cinquantaine de personnes font la queue devant un temple qui distribue de la nourriture pour tous les travailleurs laissés sans revenus. Ramu Kumar est ferronnier.
Ce confinement, c'est un désastre pour les pauvres comme nous. On est obligé de nourrir nos familles avec la nourriture du temple maintenant. Depuis que Modi dirige le pays, il y a toujours quelque chose de mauvais qui nous arrive.
Pour l'instant, malgré l'explosion des cas de Covid-19 dans la capitale, seulement 11% des lits d'hôpitaux dédiés au Covid sont occupés et le gouvernement régional exclut tout confinement généralisé.
En France, après les propos du président Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, les antipasses se sont rendus dans les rues de France hier pour manifester. Ils étaient plus de 100 000. Laurence Théo, pour RFI, était à Paris.
Les plus respectueux font un nom de la tête et refusent de parler aux journalistes. Les plus violents les insultent sans retenue. Perruque rousse et fausse moustache, ce manifestant ancien gilet jaune s'est déguisé en gaulois. Il brandit une pancarte sur laquelle il est écrit « On emmerde le roi ». Il n'a pas apprécié les propos du président de la République qui, je cite, « a très envie d'emmerder les non-vaccinés ».
Je suis une personne polie, pas comme M. Macron qui insulte donc une partie des citoyens. Je suis un citoyen français, j'aime pas trop qu'on me parle comme ça. Donc personnellement, je suis encore là, pour d'autres causes aussi. Hein. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur le pavé, régulièrement, mais c'est toujours la même chose. C'est un pouvoir qu'on ne peut pas accepter dans une démocratie comme la nôtre.
Cette idée de ne plus vivre en démocratie est partagée par cette dame, femme de ménage et non vaccinée.
Je sais pas, on a l'impression d'être dans un pays de dictature. On va finir très très mal en fait.
Sans masque, le visage mouillé par la pluie, cet employé dans les espaces verts ne supporte pas que les non vaccinés soient tenus responsables de la saturation dans les hôpitaux.
C'est pas à cause de tout ça, c'est parce que justement il y a des problèmes aujourd'hui de lits, il y a moins de soignants. Et aujourd'hui le problème il n'est pas des gens non vaccinés, le problème il est que ça fait des années qu'il y a des problèmes au niveau des hôpitaux.
Ce qui relie tous les manifestants, c'est donc une immense défiance à l'encontre du gouvernement.
En France, toujours les présidentielles de 2022, Anne Hidalgo, la candidate socialiste, était hier sur le terrain à Jarnac dans le cadre de la campagne, mais aussi pour rendre hommage à François Mitterrand, décédé il y a 26 ans, jour pour jour. François Mitterrand, je rappelle, est né dans cette ville de Jarnac. Reportage Lucille Gimbert pour RFI.
Il n'y a pas d'accord pour l'instant, assure Anne Hidalgo. Mais son espoir semble bien mince. Vendredi, l'écologiste Yannick Jadot, agacé, a redit non à son idée de primaire à gauche. Alors la candidate socialiste constate l'échec et accable son rival des Verts.
Évidemment que dans cette primaire, si les Verts autour de Yannick Jadot ne sont pas présents, ça ne s'appelle plus une primaire. Tant qu'il est possible de l'organiser, il faut l'organiser. Mais j'entends le refus. Je regrette que Yannick Jadot endosse.
En 2017, l'écologiste s'était retiré au profit du candidat du PS. Cette fois-ci, les appels à l'Union de la gauche, une nouvelle tribune d'artistes universitaires et associatifs vient de sortir, pourrait n'accoucher que d'une candidature supplémentaire. L'ancienne ministre Christiane Taubira a fait un pas de plus dans cette direction. Elle doit trancher la semaine prochaine. Ça n'a pas beaucoup de sens, tacle Anne Hidalgo.
Une primaire n'a de sens que si elle sert à avoir un candidat commun, un candidat unique, pas à ajouter des candidatures.
En visitant la maison natale de François Mitterrand, qui en son temps avait réussi à unir la gauche, la socialiste en panne dans les sondages cherchait le symbole. Pas sûr que cela soit suivi des faits.
Le candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, était au Sable d'Olonne, en Vendée. Il voulait se poser comme l'unique défenseur des valeurs chrétiennes. Reportage de Mathieu Bonnour pour RFI.
Des centaines de personnes se tiennent serrées devant l'estrade, drapeau français dans les mains. Éric Zemmour arrive sur une musique hollywoodienne, puis il déroule un discours sur les guerres de religion en Vendée.
Ces terres vendéennes gorgées d'histoire.
Pour le candidat d'extrême droite, ce déboulonnage reste dans sa vision d'une France affaiblie.
Pour détruire un peuple, il faut détruire ses racines.
Devant la statue, une haie d'honneur est formée pour accueillir Éric Zemmour. Céline est catholique, elle se sent écoutée.
En tout cas, c'est le seul qui se déplace au Sable et qui vient défendre nos valeurs ici, qui vient défendre cette statue en l'occurrence, d'où ma présence ici.
Cette dernière est même déçue de ne voir personne d'autre venir les soutenir.
Vous en avez vu d'autres se déplacer? Non.
À son arrivée, il est de nouveau acclamé par la foule.
Ne bougez pas, 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 pas. C'est le symbole de l'enracinement millénaire chrétien dans cette région et dans toute la France. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours cette volonté d'éradiquer les traditions et la religion chrétienne du territoire vendéen et français en général.
Quelques selfies, puis la rencontre se termine par une Marseillaise. Le but du candidat était bien de montrer son lien avec un thème qui lui tient à cœur, les racines chrétiennes de la France.
Le militant politique égypto-palestinien Rami Chat, détenu en Égypte depuis plus de 2 ans, est arrivé à Paris hier. Écoutez l'analyse de Leslie Pikmal, chargée du plaidoyer du Cairo Institute for Human Rights Studies auprès de l'Union européenne. Elle est sur RFI.
La répression s'est vraiment élargie tous azimuts ces dernières années pour cibler quasiment toute personne soupçonnée de dissidence. Donc je dis soupçonnée, c'est-à-dire qui soit réellement un dissident ou soupçonnée de dissidence. Et de dissidence de toutes sortes, que ce soit politique, sociale, culturelle, etc. Des syndicalistes, des journalistes, des défenseurs des droits humains, membres de partis d'opposition démocratique, etc. Donc la situation en Égypte reste extrêmement dure, extrêmement fermée, et Rami Chat, fort heureusement, a bénéficié d'une énorme campagne de solidarité pour sa libération, menée sans relâche par son épouse, qui est française. Et donc ce contexte a bénéficié à la cause de Rami. Il a pu finalement être libéré. Mais ce n'est pas le cas pour tant d'autres personnes dont nous espérons qu'elles puissent sortir un jour. Mais pour le moment, on n'observe aucun infléchissement de la politique des autorités égyptiennes.
En Australie à nouveau, avec la saga Djokovic, le premier ministre serbe Ana Brnabić a déclaré samedi que le combat continue pour aider la star du tennis qui a été confinée dans un hôtel pour immigrés à Melbourne. Novak Djokovic, je rappelle, s'est vu refuser l'entrée en Australie mercredi soir après que les autorités frontalières ont annulé son visa, estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les strictes conditions d'entrée sur le territoire australien imposé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La première ministre serbe a déclaré qu'elle avait parlé à la ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, et avait reçu des commentaires positifs sur les demandes du joueur de tennis.
Just spoke half an hour ago with Australian Foreign Minister Maurice Payne. We had a constructive conversation about the whole situation. Us as the government and President Vukic too, we're in constant contact. President is talking to Novak and we are talking to the Australian government. We are doing our utmost to make this easier on Novak. In any case, until the final decision, Novak will stay in Park Hotel.
U svakom slučaju, nažalost, on do finalne odluke ostaje u Park Hotelu.
Un mot de sport, l'Australienne Ash Barty disputera la finale de l'Adelaide International cet après-midi, ce dimanche, après avoir battu Iga Swiatek en demi-finale 6-2, 6-4 hier. Elle va affronter la Kazakh Elena Rybakina sur le court central.
It's so much fun playing out here tonight, and Egan is an exceptional champion. She made me play my best tennis, and I felt like we both played pretty well, and it was, I mean, really, really not a lot in it. So I had a lot of fun out here tonight with her.
2 semaines après son décollage, le télescope James Webb, entièrement déployé, mais il y a plusieurs étapes à franchir avant que le télescope ne puisse réaliser ses premières images. Précision de Simon Rosé pour RFI.
C'est sans doute la partie la plus impressionnante du télescope. Son miroir principal, énorme, un diamètre de 6,50 m, recouvert d'une fine pellicule d'or. Tellement grand qu'il avait dû être plié en 3 pour tenir dans la fusée Ariane 5 qu'il a lancée dans l'espace. 2 semaines après le décollage, il vient d'être totalement déployé. Webb est désormais dans sa forme définitive. Il ne va cependant pas commencer ses observations tout de suite. Il faut désormais calibrer l'engin. Ce miroir est par exemple composé de 18 panneaux hexagonaux, chacun équipé d'un petit moteur pour les régler individuellement. La précision requise est effarante, 10 000 fois plus fine que l'épaisseur d'un cheveu. C'est pourtant indispensable pour que l'ensemble se comporte comme un unique miroir et puisse faire le point correctement. Les prochaines semaines vont également être mises à profit pour continuer de refroidir le télescope. Il doit fonctionner à des températures comprises entre moins 266 et moins 240 degrés. Ces différents instruments scientifiques vont également être allumés et réglés. Ce n'est qu'après que Webb pourra commencer à observer l'univers. La première image est attendue au mois de juin.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 28 degrés. Adélaïde, 31. Melbourne, 24. Hobart, 24 également. Canberra, 27. Sydney, 27. Brisbane, 29. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 39 degrés. Un rappel des grands titres de ce 9 janvier. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre plus de 30 000 nouvelles infections et 16 décès, alors que le Victoria enregistre plus de 44 000 de cas de Covid et 4 décès. Une exemption a été accordée pour que Novak Djokovic reçoive de la nourriture sans gluten et un ordinateur portable pendant sa détention. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord l'affaire Novak Djokovic. Et s'il arrive qu'il ne joue pas à l'Open d'Australie, eh bien que pense Daniil Medvedev, le russe numéro 2 mondial?
Si Djokovic n'est pas là, il manquera tout juste un gars qui a gagné 20 grands chelems. Ce sera donc énorme parce que nous autres, à part Rafa Nadal qui est là, nous n'avons pas gagné de nombreux grands chelems. Mais bon, je crois qu'il est encore possible qu'il soit là et participe à l'Open d'Australie. On verra comment les choses évoluent. Mais oui, quand quelqu'un qui a gagné 9 éditions ici vient à manquer, ça donne plus de chance aux autres. Ça n'est pas un secret.
Et on passe maintenant au foot avec la CAN qui démarre au Cameroun ce dimanche. Olivier Pron pour Radio France Internationale est sur place. Le coup d'envoi, ce sera donc le match entre le Cameroun et le Burkina Faso.
Tellement longtemps, on attend une si grande compétition comme celle de la CAN. C'est le rêve de tout jeune Camerounais. On n'a jamais connu ça.
Karine fait des sandwichs en centre-ville. Par peur des embouteillages, dimanche, elle ne sera pas au stade, mais chez elle, bien entourée, comme le taximan Célestin qui affiche la même confiance.
Après 50 ans, mais imaginez-vous un match d'ouverture, on n'est pas gagné, non, là c'est incroyable. C'est incroyable.
Vous passeriez du rire aux larmes.
Mais bien sûr. En rang serré, nous serions derrière les Lions indomptables jusqu'à la victoire finale.
Charles aussi conduit des taxis. S'il n'imagine pas plus la défaite des Lions indomptables, il se réjouit de découvrir enfin l'écrin de 60 000 places qu'est Olembe.
On va venir voir le football, on va découvrir notre stade. Personne n'envisagera tout ça. Sommes d'accord? Ils ne peuvent pas perdre. Ils ont intérêt. On s'est battu pour qu'ils soient là. Alors, les joueurs doivent faire des sacrifices.
La fête, en somme, est assurée. Parole de Karine, cette fois pronostiqueuse.
On accepte tout, mais ça ne peut pas mal se passer. Les Lions doivent gagner. Et ils vont le faire. La fête est assurée. La victoire des Lions, 2-0.
En France, la Ligue 1, hier, Lens s'est imposée contre Rennes, 1-0. Retour sur la victoire de l'OM contre Bordeaux chez les Bordelais, une première en 44 ans. Marie-Amélie Motte, Radio France Internationale.
Une victoire avant tout symbolique. Cela faisait 44 ans que les Marseillais ne s'étaient pas imposés à Bordeaux. La dernière fois qu'ils avaient gagné en Gironde, Marius Trésor et Sar Boubacar étaient sur le terrain. Hier, c'est Cengiz Under qui a délivré l'OM après une grosse erreur du gardien bordelais Benoît Costil. On écoute la joie du capitaine marseillais Dimitri Payet à la fin du match.
C'est historique. Je pense que ce qu'on a fait ce soir au-delà des 3 points, c'est extraordinaire. Voilà, j'en ai vécu 8 ou 9 années où on venait ici, où malheureusement on gagnait pas. Donc ce soir on met un terme à la plus longue série de l'histoire de la Ligue 1, et croyez-moi que on est fiers de nous. J'ai dit cette victoire à tous nos supporters, à toutes les équipes depuis 43 ans qui sont venus ici, tous les entraîneurs, tous les joueurs. Voilà, c'est un peu la victoire de tout le monde. Donc on l'a fait nous, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cravaché pour essayer de le faire avant nous. Donc voilà, c'est la victoire de tous les Marseillais.
Grâce à cette victoire, Marseille reprend la deuxième place du classement à Nice, 10 points derrière le PSG. Bordeaux reste 17e. Bordeaux dont l'effectif était décimé hier par le Covid. Les dirigeants avaient demandé en vain le report de ce match contre Marseille.
Et puis, il y a un nouveau venu chez Metz qui joue, d'ailleurs ce dimanche, contre Strasbourg, comme nous l'explique Tom Rossi pour RFI.
C'est Jean-Armel Kanabiyik, le défenseur de 32 ans, vient de rejoindre le FC Metz, club où son père André est passé, ville où il est né. Pour lui, c'était le destin.
Revenir ici, là où je suis né, là où mon père a joué, ça a un sens pour moi. Ça a un sens, et comme je suis quelqu'un qui est assez croyant, pour moi c'est pas un hasard. Et je pense que c'était écrit que ça devait passer par ici. Au jour d'aujourd'hui, le championnat français est un championnat qui est suivi partout dans le monde. Pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir jouer dans un championnat où je me suis révélé. Et en plus, ce qui plus est, commencer par un match aussi important. Et j'espère que ça va bien se passer pour l'équipe. On va tout faire pour que ça se passe bien.
Le défenseur camerounais Kanabiyik, venu renforcer le FC Metz, privé de nombreux joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations.
Un mot de la Coupe de France féminine avec les Lyonnaises qui ont battu les Bordelaises hier, 4-0. On passe maintenant en Angleterre avec la Cup, troisième tour hier samedi, victoire de Leicester contre Watford, 4-1. Crystal Palace s'est imposé contre Millwall, 2-1. Brighton a battu West Bromwich Albion, 2-1. La victoire écrasante de Chelsea contre Chesterfield, 5-1. Everton a battu Hull, 3-2. Et victoire de Southampton contre Swansea, 3-2. En Espagne, le Real de Madrid s'est imposé contre Valence, 4-1. Et le FC Barcelone a fait match nul avec Grenade, 1-2. Retour sur la CAN au Cameroun qui démarre ce dimanche. Et la CAF, la Confédération africaine de foot, s'est réunie juste avant la CAN. Antoine Grenier pour RFI, il était à Yaoundé.
Un comité exécutif expéditif. 3 heures de réunion entre 14h et 17h au Crystal Palace de Douala sous la présidence du Sud-Africain Patrice Motsepe, le patron de la CAF. Et à la sortie, une annonce phare, la hausse des primes allouées aux équipes parvenant en quart de finale de la CAN. Augmentation de près de 2 millions de dollars, dont 500 000 de plus rien que pour le futur vainqueur. Le champion d'Afrique en touchera désormais 5 millions, soit 3 milliards de francs CFA. Une hausse qui, selon un des membres du comité exécutif, n'a rien d'extraordinaire, d'autant que la question était sur la table depuis déjà un an. Autre décision notable de ce comité exécutif du 7 janvier, les dates des barrages du Mondial 2022 et du tour préliminaire de la CAN 2023, de tirage au sort qui se dérouleront en plein milieu de la Coupe d'Afrique des Nations, le 21 janvier pour le tour préliminaire et le 22 pour le tirage des barrages de la Coupe du Monde. Les 10 équipes engagées dans cette dernière phase avant le Qatar connaîtront alors leur futur adversaire. À noter que ces deux dates du 21 et 22 janvier n'ont pas été choisies au hasard. Elles correspondent en effet à des jours de relâche pour la CAN entre la fin de la phase de groupe et les premiers huitièmes de finale à Limbé et Garoua.
Et puis, pas une bonne nouvelle pour l'équipe gabonaise avec des joueurs testés positifs vendredi, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte pour RFI.
Oui, premier pas au Cameroun et premier cas de Covid. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été testés positifs lors de leur arrivée à l'aéroport. Alors le problème, c'est que les deux joueurs venaient d'être filmés en boîte de nuit, sans masque et loin de respecter les gestes barrières. Une scène filmée à Dubaï où les Panthères préparaient la CAN. Et hier, en marge de leur premier entraînement au Cameroun, Patrice Neveu a tenu à réagir à la publication de cette vidéo et à l'annonce des cas positifs dans son groupe. On écoute le sélectionneur gabonais au micro Antoine Grenier.
Je suis pas très inquiet dans la mesure où ils ont aucun signe de fièvre ou quoi que ce soit qui démontre qu'il y a une grosse attaque du virus. Bon, après, est-ce que le test est vraiment fiable? On sait que les tests antigéniques peuvent être douteux. Bon, en tout cas, même si malheureusement il y avait une confirmation de positivité, ça va pas durer parce que les joueurs sont en forme. Moi, personnellement, je vais peu sur les réseaux sociaux. Je voudrais pas qu'il y ait de confusion par rapport à la discipline à l'intérieur de mon équipe. Parce que je sais qu'ici, ils vont rentrer dans une bulle pendant un certain temps. Après le dernier match contre la Mauritanie, je leur ai donné quartier libre pour prendre un repas ou se détendre. Ça fait partie aussi de la préparation. Là, manifestement, il y a un de mes joueurs qui a été pris en photo dans un restaurant. Il avait tout à fait le droit. Je leur ai donné la possibilité d'aller se défouler. Ils se défoulent, c'est des grands garçons. Ils sont dans l'entraînement, tout le monde est prêt. J'aime bien aussi, certes, un groupe discipliné, mais qui sait bien vivre aussi.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Notre rubrique personnages en lien avec l'actualité. Cette semaine, ils sont deux frères jumeaux, les frères Grichka et Igor Bogdanov. Ils se sont éteints à 6 jours d'intervalle, les 28 décembre et le 3 janvier. Tous deux décédés des suites du coronavirus alors qu'ils n'étaient pas vaccinés. Les frères Bogdanov étaient des figures médiatiques passionnées de science-fiction. Ils s'étaient révélés aux yeux du grand public en France dans les années 80 avec leur émission mythique Temps X sur TF1. Ce sont nos deux personnages de la semaine à travers des extraits d'émissions radio et télévision.
Cette information que nous avons apprise peu après 18h, la mort d'Igor Bogdanov, 6 jours après son frère jumeau Grichka, tous les deux du suite du Covid, tous les deux étaient non vaccinés.
On a appris ce soir le décès d'Igor Bogdanov. Il avait 72 ans. Il a succombé au Covid 6 jours après son jumeau Grichka. Les deux frères s'étaient fait connaître dans les années 80 avec leur émission Temps X qui vulgarisait la science. Igor Bogdanov était le père de 6 enfants. Il avait été hospitalisé en soins intensifs mi-décembre en même temps que son frère.
Imaginons aussi que nous soyons secondés dans toutes nos tâches par des robots et que des cerveaux électroniques d'une incroyable puissance résolvent à notre place les problèmes les plus complexes.
Imaginons enfin que nous ayons maîtrisé le problème du vieillissement et de la mort, que nous ayons aussi développé en nous des super-pouvoirs qui feraient de nous ce qu'on appelle des surhommes. Tout cela, aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. Mais c'est aussi peut-être la réalité de demain.
Indissociable dans la vie, comme à l'écran, Igor et Grichka ont été hospitalisés au même moment, mi-décembre. Tous deux atteints du Covid, ils refusaient la vaccination. D'après un proche, les jumeaux estimaient qu'ils étaient en bonne santé et capables de résister au virus. Un paradoxe pour ceux qui ont vulgarisé pendant des années les découvertes scientifiques dans l'émission Temps X sur TF1.
Pour se défendre, ils ont une épée, mais cette épée est magique.
Leurs ouvrages scientifiques ont suscité de nombreuses controverses. Les deux frères rejoignent les étoiles à 6 jours d'intervalle.
Février 1828. Dans une petite île battue par les vents, naît un écrivain dont l'œuvre extraordinaire, traduite en plus de 116 langues, reste encore aujourd'hui celle qui est le plus lue dans le monde entier. Il s'appelait Jules Verne.
Avril 1926. Un écrivain américain décide de créer une revue dans laquelle il publiera des textes de prophéties scientifiques, dit-il. Et comme il n'est guère satisfait de ce terme, il va en créer un autre qui fera littéralement fortune, science-fiction.
Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Eh bien oui. Temps X est donc votre magazine. Alors, attention, nous ne sommes plus en 1979. Temps X vous souhaite la bienvenue dans l'avenir.
Est-ce qu'on pourrait résoudre tout de suite le problème de savoir lequel des deux Bogdanov est là aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà vu cette semaine, vous. Hein.
Il me semble, en effet, oui, mais l'autre jour, quand on se baladait quelque part, Igor et moi, moi j'étais séparé de lui et lui de moi, forcément. C'est vous, c'est votre frère. Et donc, évidemment, ça m'arrive tout le temps. Le
concert de 3. Lequel des deux que j'ai aujourd'hui?
Grisha.
Grisha. On dit.
Voici Igor et Grisha Bogdanov. Igor et Grisha, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nés le 29 août 1949.
À Menton.
Bon, alors, on va tout de suite, voilà, on va tout de suite évacuer cette histoire du Menton. Parce que...
J'ai rien dit.
Mais non, mais tu as dit à Menton. Alors, pour quelle raison avez-vous un Menton comme ça? Parce que tout le monde se pose la question. Posons-la.
Ben c'est ce que Bec-Bédé a dit hier, c'est depuis qu'il est passé dans notre émission, en fait, il a eu le sentiment qu'il allait se transformer en un troisième frère Bogdanov. Alors on lui a dit, mais pas du tout. En réalité, c'est Igor qui a peut-être voulu ressembler à Grisha ou vice-versa. Ouais. Et en un certain sens, on ne ressemble plus à personne.
Ouais. Ben, non, mais c'est dû à quoi?
À force de se prendre la tête. Alors, le début du monde,
c'est ça, oui.
Le Big Bang.
Non, sérieusement, c'est comme ça? Vous êtes comme ça? Ou c'est quelque chose que vous avez fait?
Non, mais sérieusement, c'est parce que tout le monde en parle. En réalité, il n'y a rien de...
Ça ressemble au pharaon, un petit peu.
Non, c'est pas du tout. C'est la première fois qu'on nous en parle, d'ailleurs.
Non, c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai.
Bah, les gens n'osent pas vous en parler. Nous, on vous en parle.
Non, mais...
Une émission, on dit tout, ici.
Non, mais c'est une émission décontractée, où tout passe, et finalement... Non.
Ça vous embête qu'on vous en parle? Non, sérieux.
Ah, jamais.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Great pleasure of welcoming on SBS French, Jessica Bridgefoot. Welcome.
Thank you.
And you are the Bendigo Art Gallery Director. And we're going to be talking about Pinpi. I hope I'm pronouncing everything correctly. Pinpi goes to Paris. It's an exhibition of contemporary Australian Indigenous fashion and design creatives. What can you tell us about that?
Oh, thank you. And Pinpi is how you pronounce it. Well done. So Pinpi is actually a Kanju word, which is from East Cape York region of Australia, and it means seasons. Mm-hmm. And seasons underpins the whole curatorial premise or the themes within the exhibition. So the exhibition is based around the Indigenous themes, which kind of range from seasons, which range from between 5 to about 14 seasons per year, and that's the way that the exhibition is laid out. So to give you some context, that this is the first Indigenous fashion exhibition, or the largest in Australia, and we're very excited that this exhibition is touring to Paris. And the original exhibition featured over 90 garments drawn from all around Australia. And as the title, Pinpi, infers, the exhibition does follow the Indigenous season. So the garments are grouped into sections of the wet season, cool season, the season of regeneration, so when flowers come out. And when the turtles lay their eggs. And then there is the cool season as well, which includes, sort of beautiful garments and possum skin cloaks, as well as, of course, a streetwear section, which is called Black and Deadly. So the exhibition will be touring to Paris in January, and we think that this is definitely the first of its kind to be presented in Paris. So it will be fascinating to see how it's received.
A world premiere. So the exhibition was curated by Shoney Hobson, I believe?
Yes, that's right. And Pinpi is Kanju, which is Shoney's grandmother's language for seasons. So was a very initially a personal exhibition, taking that story and then sort of extending it in, you know, what really is, I think, such a generous gesture of culture and storytelling. And I think that is what really sets Indigenous Australian fashion apart, in that it is a confluence of storytelling and ancient culture with, you know, a contemporary sort of sensibility, and definitely in a contemporary sense something to say. So each of the garments in the exhibition have their own story to tell about being on country or dreaming, as well as being absolutely beautiful and wearable.
And the other designers are of Indigenous background?
Yes, so all of the designers in the exhibition are Indigenous. Some of the garments that are in the exhibition are collaborations between garment makers and artists who paint directly onto the fabric, or screen print as well. So some of the garments, like, for example, the Hope Veil garments, very much look like wearable art, in that they're, you know, highly colourful and yeah, sort of patterned, as well as being quite sculptural. The original exhibition featured over 70 artists and designers, and the touring exhibition features 50 artists and designers.
So the exhibition is being facilitated by the federal government and also by Creative Victoria's strategic program?
Yes, it's part of a big presentation, which I believe is called Australia Now in Paris, and obviously has been staged to coincide with Eau Couture Week in Paris. So not only will there be an exhibition at the Australian Embassy Gallery, which is a beautiful gallery, but there'll also be an exhibition, a pop-up exhibition, at the BHV department store in Marais during the Fashion Week. And so we're pretty excited about that, because I think that also gives the artists and designers an opportunity to sort of showcase their work in a retail and commercial setting as well. So hopefully there'll be lots of exposure for the designers, and some good things will come out of this, because I think Indigenous fashion, is definitely kind of the next exciting export for Australia. We know that there's a huge appetite for Indigenous Australian design and, particularly painting and art, but fashion is certainly the kind of next exciting industry, I think, that's starting to burgeon. And yeah, it's very exciting to be a part of it, and we just hope that all good things come out of this, and the more attention on Indigenous Australian designers, the better.
Fantastic news. And we take the opportunity, because you are the director of the Bendigo Art Gallery, to ask you some questions about some of the exhibitions that are on at the moment over summer for the kids.
Oh, fantastic. Well, we've got quite a great range of exhibitions on at the moment. So we've got some beautiful contemporary artworks from our collection out on display, some recent acquisitions and some old favourites, including our gorgeous Patricia Piccinini Young Family, which is always a delight for young kids and families. But we also have the Arthur Guy Memorial Painting Prize, which is a big contemporary survey of Australian painting now, and an exhibition that we've curated with a curator called Noor Shkembi. And that exhibition is called Soul Fury, and it features the work of women artists of Islamic heritage, Australian and international artists, and brings them together in this really large survey of Islamic contemporary art, which is a fascinating show, and that will be on all over summer.
And next year you've got Elvis direct from Graceland.
Yes, we do. Yeah, we're very much looking forward to Elvis, and it's an exhibition that, you know, we've been talking about for a long time. We do tend to have a focus on fashion and design and celebrity, as well as contemporary art, but, we do love a good sort of celebrity fashion show. And my gosh, like, who better than Elvis to focus on, you know, what incredible style he had, and a style that still absolutely resonates today. So that's a show that we've curated with the Graceland Archives, and many of the objects in the exhibition, which are pretty outrageous, like the gold-plated telephone he had on his bedside table, are coming over, and they've never left the gates of Graceland. So it's a real opportunity for, you know, people that are interested in Elvis, obviously, or music, but also interested in pop culture to come and have a look at, I guess, you know, the 20th century sort of original celebrity. He's certainly probably one of the most iconic figures of our time.
Jessica Bridgewood, thank you so much for coming on to SBS French and speaking about Pimpi Goes to Paris, and all the best for the future. Thank you.
Thank you. Thank you for having me.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. On vous laisse en musique avec Dani, Terreur. Il pleut, elle m'en veut. Belle journée, à bientôt.
Mais l'amour, ce n'est pas une cage, c'est le sang qui bat au fond du corps.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.